Ainsi, les deux textes liturgiques de ce deuxième dimanche de carême. L'épître est tirée de saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous vous demandons et vous conjurons dans le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchez ainsi de manière à progresser de plus en plus. Vous savez en effet quel précepte je vous ai donné de la part du Seigneur Jésus. Car la volonté de Dieu est que vous soyez saints, que vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les convoitises de la passion, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne à cet égard ne trompe son frère, ne lui fasse tort, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, car nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. Lève pour l'évangile, continuation de saint évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit. Et voici qu'une voix sortit de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Les disciples entendant tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, levez-vous, ne craignez point. Alors levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Veuillez vous asseoir. Alors, quelques annonces. Donc attention pour les messes en semaine. Cette semaine donc. Lundi, mardi, mercredi, je dirai la messe à 8h30 le matin. Et jeudi, vendredi et samedi, il n'y aura pas de messe, que je vais en dehors pour la mission mensuelle, en espérant que je puisse revenir ici, malgré les lois draconiennes pour le retour en France. Parce qu'Andorre, c'est en dehors d'Europe. Alors c'est tout un bazar pour revenir en France après. Enfin, en principe, il n'y a pas eu de problème, on s'est renseigné. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc les retraites. Pensez à vous inscrire et pas attendre le dernier moment pour s'inscrire pour que je puisse m'organiser pour les retraites. Je vous rappelle les dates, 29 mars, 4 avril, 26 avril, 1er mai, 7 juin, 12 juin, 13 septembre, 18 septembre et 18 octobre au 23 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, encore une fois, il faut aller chercher dans le bréviaire du prêtre l'axe que l'Église nous demande de suivre pour l'explication des textes liturgiques du dimanche. Et en ce moment, ce n'est pas pour rien, nous sommes en plein carême. L'Église va demander au prêtre de méditer toujours le livre de la Genèse. Nous sommes à un passage très important du livre de la Genèse avec Isaac, un des grands patriarches de l'Ancien Testament. Isaac avait eu de Rebecca, son épouse, deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et Isaac aurait souhaité transmettre la bénédiction du chef de famille, très importante dans l'Ancien Testament, à Ésaü, et vous connaissez l'histoire, son épouse qui savait que c'était Jacob qui devait prendre cette bénédiction, a présenté Jacob à son mari au lieu de présenter Ésaü, parce qu'il a demandé à avoir son fils aîné pour recevoir la bénédiction. Jacob étant, Isaac étant aveugle, n'a pas pu voir la différence. Et les textes du livre de la Genèse donnent un détail un peu bizarre. Pour obtenir ce qu'elle voulait, Rebecca va demandait à son fils Jacob de revêtir les vêtements d'Ésaü, que l'odeur d'Ésaü imprègne ses vêtements et donc imprègne Jacob. Et en plus, elle va recouvrir, nous dit le texte, les bras de Jacob de peau de brebis. Pourquoi? Mais les pères de l'Église insistent sur trois points très importants. Donc, Jacob qui prend la place d'Ésaü représente l'Église catholique qui prend la place de la synagogue. Jacob est à l'Église catholique, ce qu'Ésaü est à la synagogue. Et au début, c'était la synagogue qui devait apporter le Messie. En fait, c'est ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, au moment où le Messie est arrivé, il y a 2000 ans, le Sanhédrin, les chefs des prêtres juifs, ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ avec une grande partie des Juifs. Et donc, Dieu a voulu transférer l'autorité spirituelle de la synagogue à l'Église catholique. Donc l'Église catholique va se substituer à la synagogue. Le deuxième point sur lequel insistent les pères, c'est que ces peaux d'animaux qui vont recouvrir les bras de Jacob représentent l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir mourir sur la croix, a dû prendre une nature humaine. Parce que avec sa seule nature divine, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu est éternel. Donc il va se recouvrir de l'humanité en cachant littéralement sa divinité à l'intérieur de l'humanité pour prendre une image acceptable, qu'on puisse comprendre plus facilement. Et donc ces peaux de brebis qui sont placées sur les bras de Jacob représentent l'humanité sainte de notre Seigneur. Et les pères font remarquer un troisième détail important, ils disent les poils de la peau de brebis, les poils sont sales, surtout chez un animal, parce qu'il y a de la boue, il y a de la poussière, et bien ces poils que va toucher le père de famille pour transmettre sa bénédiction, ces poils représentent les péchés des hommes. Donc les péchés des hommes dont notre Seigneur Jésus-Christ va se recouvrir comme d'une peau afin de pouvoir les pardonner. C'est tout le carême. Le carême, c'est la méditation justement de notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte, tout en étant Dieu, tout en restant Dieu, de prendre une humanité afin de charger sur cette humanité les péchés des hommes et pouvoir les pardonner. Il me dit, mais comment une telle chose est-elle possible? Une telle chose est possible parce que cette humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ est unie à sa divinité. C'est l'humanité d'un homme-Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est vraiment Dieu. Et étant Dieu, il peut effacer nos péchés. Étant homme, il peut mourir sur la croix. Et c'est pour cela que l'Église catholique a choisi justement comme évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la transfiguration. Un évangile qu'on va retrouver souvent dans les textes liturgiques. Il y a quelques textes liturgiques qui sont répétés assez souvent dans la liturgie pour bien exprimer leur importance. Il y a surtout deux. Il y a ce texte de la transsubstantiation, de la transfiguration, et également le texte au moment de la naissance, juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le texte de la prophétie de Siméon qui annonce à la très sainte Vierge Marie qu'un glaive de douleur allait percer son cœur parce que son fils deviendrait un signe de contradiction. On retrouve également ce texte à plusieurs reprises dans les textes liturgiques. Alors pourquoi ce texte de la transfiguration est-il tellement important? Parce que c'est une théophanie. Qu'est-ce que c'est qu'une théophanie? C'est une manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus-Christ va manifester sa divinité, bien sûr, d'abord par les miracles, puis en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais là, d'une façon toute spéciale, devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa divinité. Il n'a pas montré sa divinité dans toute sa splendeur, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir ici-bas. Donc il va dévoiler un tout petit rayon de sa divinité. Et là, les conséquences. Une toute petite partie infime de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça met déjà les trois disciples, les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, dans tous leurs états. Dans tous leurs états. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va leur expliquer quelque chose qu'il a voulu cacher. Il cache sa divinité, il ne se voit pas. Et les pères de l'Église expliquent que cette transfiguration, cette beauté extraordinaire qui va jaillir, rejaillir du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le texte nous dit que ses vêtements vont devenir blancs comme la neige, sa face va resplendir comme le soleil, eh bien, cela représente la beauté aussi d'une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce avec une extraordinaire beauté qui est représentée par analogie par la gloire extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas retrouvé quel est le saint qui avait reçu une fois une vision et un ange lui a présenté une âme en état de grâce. Et le saint était tellement, littéralement aveuglé par la beauté, la dignité, la gloire de cette, la paix, de voir cette âme en état de grâce qu'il a cru avoir vu l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'ange lui a dit, non, ce n'est pas l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez vue, c'est l'âme d'un homme en état de grâce. Et le saint a dit, mais si une âme en état de grâce d'un simple mortel a déjà une telle gloire, une telle beauté, une telle dignité, quel doit être le degré de gloire, de beauté, de dignité, de paix qui doit être celle de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ? Et je crois que c'est quelque chose d'important, important à comprendre la beauté d'une âme en état de grâce. N'oublions pas que nous, catholiques, nous avons une marque sur notre âme qui s'appelle le caractère du baptême. Et cette marque est tellement extraordinaire qu'elle est nécessaire au salut. Tous les hommes ne sont pas identiques. On nous parle à longueur de journée d'égalité, il n'y a pas d'égalité. Il y a égalité dans la nature humaine. Tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, ont tous un âme et un corps, bien entendu, sinon on ne serait pas homme. Mais donc, tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et ceci donne à notre âme, si vous voulez, une gloire, une beauté extraordinaire que n'a pas l'âme de quelqu'un qui n'est pas baptisé. Voilà pourquoi l'Église doit garder son esprit missionnaire pour essayer d'obtenir le baptême, ce caractère baptismal qui fait de nous des enfants de Dieu à tous les hommes. Pour cela que l'Église a toujours envoyé des missionnaires dans le monde entier. Beaucoup sont faits dévorer par les lions ou par les sauvages, justement parce que le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sauver toutes les âmes, sauver tous les hommes. Il faut méditer, mes bien chers frères, sur ces choses-là. Et comprendre, encore une fois, la grandeur d'une âme en état de grâce. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, alors que Bergoglio à Rome a osé dire, et plusieurs fois, et publiquement, il l'a dit, il l'a écrit, que tous les hommes sont des enfants de Dieu. C'est faux, parce que tous les hommes sont des créatures de Dieu, bien sûr, mais ne sont pas des enfants de Dieu sans le baptême. Et le deuxième point important qu'on peut utiliser pour expliquer ce texte de la Transfiguration, c'est la réaction des apôtres. Qu'est-ce que vont dire les apôtres ? Il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour nous d'être ici. Il faudrait vraiment que nous, catholiques, nous puissions dire la même chose à chaque fois que nous approchons de notre Seigneur. Il est bon pour nous, Seigneur, d'être dans la chapelle. Il est bon pour nous, Seigneur, de recevoir le Saint-Sacrement. Il est bon, la Sainte Eucharistie. Il est bon pour nous d'être agenouillés devant l'autel sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ va descendre avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Vous voyez, comme ces choses sont importantes. Et cet amour de la présence réelle doit être transmis. Et transmis, et ça c'est un point très important aussi, le bon Dieu attend que vous transmettiez cet amour de la messe, cet amour de l'Église catholique, cet amour du sacerdoce, le bon Dieu attend que vous transmettiez cet amour à toute une série de personnes. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, pour les gens mariés, vous devez quand même vous préparer à transmettre un jour cet amour. Et le bon Dieu qui sait tout, il a prévu que vous devriez transmettre cet amour de la messe, cet amour du sacerdoce, cet amour de l'Église, cet amour de la doctrine catholique à toute une série de gens qui ne sont peut-être même pas de votre famille. Je peux vous donner deux exemples tout simples. Je connais une personne dans un avion. Il a commencé, le service était terminé pour les hôtesses de l'air, Ils commencent à parler qu'une hôtesse de l'air. Et puis, ils ont un petit peu sympathisé et il lui a donné une feuille de retraite, avec les dates des retraites, dans la tradition. T'es pas avec moi. Et cette personne est allée faire la retraite. La jeune hôtesse de l'air est allée faire la retraite. Elle s'est complètement convertie et est rentrée au couvent. Elle est devenue religieuse. Mais le bon Dieu avait prévu de toute éternité que telle personne, tel catholique dans tel avion, allait être l'instrument de la conversion d'une autre personne. Autre exemple que je peux vous donner, personne que je connaissais également, qui a pris un jeune garçon, un jeune homme en autostop. Et ce jeune homme en autostop, il a commencé à parler, ils ont un petit peu sympathisé, et il lui a donné une feuille de retraite. Et cet homme, différent de la première histoire, cet homme a donné cette feuille de retraite, et ce jeune homme est allé faire la retraite et s'est complètement converti. Et Dieu donc a prévu que la foi catholique, le retour à l'état de grâce, serait transmis à telle âme par l'intermédiaire de telle autre personne. C'est pour ça qu'il faut être fidèle. Le jour de notre mort, je pense que chacun d'entre nous, vous et moi, nous comprendrons que nous aurions dû être les instruments de la conversion à toute une série de personnes et nous ne l'avons pas été à cause de nos infidélités personnelles. C'est valable pour tout le monde, nous pouvons aussi, bien entendu. Alors, les apôtres vont entendre cette voix du ciel qui va prononcer la même parole qui a déjà été prononcée par Dieu le Père au baptême de notre Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc le bon Dieu nous demande d'écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas suivre la loi du bon Dieu si on ne la connaît pas. D'où l'importance de la prédication, l'importance de l'étude pour connaître la loi de Dieu et la mettre en pratique. Et enfin, le dernier point, qui est également un point très important, qu'est-ce que va dire notre Seigneur Jésus-Christ en conclusion à ses apôtres qui sont tout heureux d'être là, de voir cette gloire extraordinaire de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ne craignez rien. Ne craignez rien. Je crois que c'est une phrase très importante pour nous aujourd'hui, surtout aujourd'hui en 2021 où le gouvernement français fait tout pour maintenir les gens dans la peur constante, la terreur constante avec cette dictature sanitaire épouvantable qui se met en place partout, cette grippe du Covid-19. Eh bien, le bon Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Donc il faut demander au bon Dieu d'avoir ce don de force qui va nous permettre d'éviter la peur. Si nous sommes en état de grâce, si nous avons en nous ce caractère du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, si nous avons en nous en plus l'état de grâce qui fait que nous sommes vraiment créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur. Même si autour de nous, tout s'écroule. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous avons en nous la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par l'état de grâce, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Non, quelle est la condition? Il y a une condition, et là, pour comprendre ce texte, il faut aller cette fois-ci au texte de Saint Paul aux Thessaloniciens. La condition, c'est de remplir la fonction pour laquelle nous sommes sur la terre. Quelle est la volonté du bon Dieu pour nous? Saint Paul nous le dit. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, notre sanctification. La volonté du bon Dieu, c'est que nous gardions du péché, et du péché, et Saint Paul fait surtout allusion au péché d'impureté en général. Par le mot de fornication, qui est le mot utilisé dans l'épître aux Thessaloniciens, c'est tous les péchés d'impureté qui sont exprimés. Pourquoi est-ce que Saint Paul nous dit « Gardez-vous des péchés d'impureté » ? Parce qu'il sait très bien que les péchés d'impureté vont être comme une espèce de voile devant nos yeux, les yeux de notre âme, et nous serons incapables à ce moment-là de voir la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous vivons dans l'impureté, nous serons incapables de voir la transfiguration. Vous voyez comment il y a un lien entre toutes ces choses-là. C'est très important à comprendre. Le bon Dieu nous demande d'ouvrir les yeux de notre âme. Pour que les yeux de notre âme puissent être ouverts, il ne faut pas qu'on ait des espèces d'écailles devant les yeux. Le péché représente une espèce d'écaille qui nous empêche de voir clairement ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ou nous faire comprendre. Alors il faut demander, mes bien chers frères, il faut demander Oh mon Dieu, cette grâce de savoir toujours nettoyer les yeux de notre âme pour que nous puissions voir notre Seigneur Jésus-Christ, comprendre la beauté de l'Église catholique. Regardez tout ce qui se passe actuellement, comment partout dans le monde on cherche à empêcher ce message de notre Seigneur Jésus-Christ d'être diffusé, comment on cherche par tous les moyens, littéralement le démon, le monde moderne cherche à faire écrouler, à enfoncer la tête de l'Église catholique sous la boue, littéralement, pour qu'elle ne puisse plus prêcher la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ces horreurs viennent de Rome. Comment le bon Dieu a-t-il permis que toute cette campagne de destruction de l'Église catholique puisse venir de Rome? C'est un grand, grand mystère, mystère d'iniquité. Mais l'Église et les promesses de la vie éternelle. N'oublions pas, les forces du mal ne prévaudront point contre cette Église. Mais attention, le bon Dieu n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards et des milliards de catholiques. À la fin du monde, quand je reviendrai, a-t-il dit, qui sait si je trouverai encore la foi? Eh bien, chers frères, la méditation de ce texte de la Transfiguration doit nous aider à comprendre la responsabilité que nous avons sur notre âme. Nous avons une âme catholique, nous avons une âme qui a été marquée par le caractère, nous avons donc l'obligation de la protéger à ce titre. Et malheur à nous si nous nous permettons de jouer avec la grandeur et la gloire de notre âme et la traîner dans la boue. Et c'est pour cela que l'Église catholique demande, justement pendant ce temps de carême, surtout à la fin du carême, en principe c'est ce qu'on appelle le temps pascal, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche après Pâques, l'Église demande à tous les catholiques, même ceux qui ne se confessent pas habituellement, de se confesser au moins pendant cette période afin de nettoyer leur âme. Alors il faut demander, mes bien chers frères, la compréhension de tous ces textes magnifiques de l'Écriture sainte par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, encore une fois, puisque c'est par elle que tout passe. N'oublions pas que sans la Sainte Vierge Marie, aucune grâce ne passe. Donc la grâce de la foi passe. Pas toi, Sainte Vierge Marie. La grâce de l'absolution sacerdotale que nous donne le prêtre lorsqu'il nous dit « Allez en paix, vos péchés sont pardonnés », cette grâce aussi passe par la Sainte Vierge Marie. Et qu'il nous faut comprendre, eh bien, chers frères, toutes ces choses-là. Et si nous commençons à paniquer parce que nous vivons dans un monde complètement pourri, rappelons-nous cette phrase de notre Seigneur à ses apôtres, « Ne craignez rien. Ne craignez rien parce que j'ai les paroles de la vie éternelle, dit notre Seigneur. » Alors ceci doit, mes bien chers frères, être pour nous une source de joie, une source de paix, une source de lumière. Comprendre que nous sommes des enfants de Dieu par le baptême et que le bon Dieu nous donne par son Église, même dans l'état actuel des choses, le bon Dieu nous donne toutes les grâces dont vous et moi nous avons besoin pour arriver à tenir le coup, malgré toutes les persécutions à droite et à gauche. Heureusement que nous ne savons pas tout ce qui nous attend, parce que je crois que si nous savions à l'avance tout ce qui nous attend maintenant, on serait un peu découragé. Le bon Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin au jour le jour. Il ne va pas nous donner aujourd'hui les grâces dont nous avons besoin demain. Il nous donne aujourd'hui les grâces dont j'ai besoin aujourd'hui. Demain, on verra. Donc, ne nous décourageons jamais. Et commençons déjà à préparer cette confession pascale qui est tellement importante pour que notre âme soit vraiment avec les portes grandes ouvertes pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans l'âme. Si les portes sont fermées à double tour, qu'est-ce que vous voulez que fasse notre Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre volonté propre. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie toutes ces grâces dont nous avons besoin afin de pouvoir avoir une âme bien pure le jour de la fête de Pâques pour recevoir le Fils de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.